Bonjour Daniel, l'équipe et les AMG. Le vœu de Pascal du Pays Basque vendredi n'aura pas été exaucé. Mais si Sarko a pu atterrir à la Martinique, la famille d'Aimé Césaire l'aura empêché de faire son show devant les caméras et obligé à remballer son discours. Et ça, c'est déjà beaucoup. Merci à eux.
Bonjour, c'est Pascal Dumont. Un petit message à l'attention de Monsieur Sarkozy. J'en ai assez de l'entendre dire qu'il est le président de tous les Français parce qu'il n'est pas mon président. Donc à l'avenir, j'aimerais bien qu'il dise qu'il est le président de tous les Français, sauf de Pascal Dumont. Voilà, merci, au revoir. Continuez.
Oui, bonjour Daniel. Voilà, je suis X, on peut dire qu'ainsi. Voilà, mon appel fait suite au mouvement des sans-papiers en Île-de-France. Je suis moi-même sans papier. J'ai commencé dans ma boîte comme manutentionnaire il y a 5 ans. Avec les papiers d'un cousin, je voudrais dire. Aujourd'hui, je suis cariste. Je demande à rencontrer les responsables de la CGT et l'association Droit Devant pour étudier ma situation. Je rappelle qu'en 2004, je me suis fait opérer d'un ménisque du genou. 10 jours après, j'ai repris le travail sur la chaîne sans que personne ne s'en rende compte. Je soufflais, certes, mais je n'avais pas le choix. Merci Daniel, merci RFI. À bientôt.
Ouais, salut. Bon, voilà, je suis un petit artisan, je suis un patron. J'ai un employé à mi-temps qui gagne autant que moi et j'en suis très très content. J'aimerais juste le payer plus et j'aimerais bien aussi gagner un petit peu plus. Mais bon, les patrons seront jamais des bons patrons, comme dit Daniel. Et prends-toi ça dans la gueule, ça fait toujours plaisir. Et pourtant, Dieu sait que je suis d'accord avec vous. Même plus que ça. Mais là, des fois, ça fait chier, quoi. Déjà que je me sens pas chez moi avec les patrons, justement, parce que j'essaye d'avoir des idées qui font avancer les choses. Et j'ai une certaine idée de la justice sociale. Et quand je vois que les gens que j'apprécie m'envoient dans la gueule que je suis un sale patron et que je le resterai, c'est pas génial. Allez, courage quand même. De toute façon, je continuerai à vous écouter parce que je suis complètement d'accord avec vous. Enfin, complètement. Sauf quand vous dites des conneries, quoi. Quand vous dites des trucs que je prends dans la gueule, c'est un peu difficile. Allez, ciao.
Oui, bonjour Daniel, bonjour à toute l'équipe de là-bas, si j'y suis, et bonjour à tous les AMG. Une petite info, comme entendu au grand journal de Canal+, où Christophe Barbier était invité. Christophe Barbier de l'Express, qui nous dit que le fait que l'État ne rembourse plus la carte famille à SNCF et que les lunettes ne soient plus remboursées non plus ne sont pas des mauvaises nouvelles. Non, c'est pas des mauvaises nouvelles. Hein. C'est simplement une erreur de communication de l'État. Donc voilà, enfin du gouvernement, quoi. Donc voilà, écoutez, on attend vite un autre édito de Christophe Barbier. Hein. On l'attend. Allez, merci, à bientôt.
Mais oui, il a raison, ce monsieur Barbier de l'Express. Tout ça est une affaire de communication, tout ça est une affaire de petite maladresse du gouvernement, mais ce sera vite et facilement arrangé avec un peu de pédagogie. La suppression des cartes de famille nombreuses, le remboursement des lunettes, la réduction des postes d'enseignants, les 200 hôpitaux qui seront fermés d'ici à 2010, c'est-à-dire la carte hospitalière, etc., etc. Bref, cette réduction des dépenses sociales, c'est une réforme absolument nécessaire, c'est indispensable, c'est ça, moderniser notre pays. Simplement, il y a eu des petites maladresses, des petites cafouillage, mais tout ça va s'arranger. Alors, il y a de mauvais esprits, il n'en manque pas, notamment dans cette émission, dans le répondeur, la boîte vocale de cette émission, qui vont évoquer les cadeaux fiscaux, boucliers fiscaux, réduction de tranches d'impôts, vous vous souvenez, 15 petits milliards à des amis. Alors voilà, on peut plus faire plaisir aux amis, aussitôt vous avez des gens qui, par exemple, vont souligner le résultat d'une étude de l'IRDES. L'IRDES, c'est l'Institut de Recherche et Documentation en Économie de la Santé, IRDES. Eh bien, selon l'IRDES, 14% des Français renoncent à se soigner par manque de moyens. 14% des Français, notamment sur les soins dentaires. 63% des Français renoncent à se faire soigner les dents et les lunettes. 25% renoncent à s'équiper de lunettes ou changer leurs lunettes. Alors que nous sommes 60% à avoir des problèmes de vue. C'est pas mal, hein ? Et ça risque évidemment de s'aggraver. Mais tout ça, c'est une affaire de communication, de maladresse et de pédagogie. Alors moi aujourd'hui, ça s'entend peut-être, je suis malade, j'ai attrapé la crève, c'est pas grave du tout, demain je serai sur mes pattes de derrière. Mais enfin, voilà, ça m'inquiète un petit peu tout ça. Ça m'inquiète de savoir si j'ai droit à des franchises médicales ou non. Droit, enfin, plutôt devoir. Vous vous souvenez des franchises médicales ? Qu'est-ce que ça devient, cette histoire ? Voyons ce qu'il y a derrière ces franchises médicales qui, quand même, avaient surpris pas mal de monde l'an passé. Voyons ce que ça devient, intéressons-nous à cela et voyons s'il n'y a pas comme une sorte de cohérence dans toute cette politique gouvernementale qui nous regarde, même lorsque nous sommes au fond de notre lit. Voilà, encore quelques messages auparavant, parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel, bonjour à vous tous. C'est Michel de la commune de Seine-Saint-Denis, les Pavillons-sous-Bois. Je voudrais vous parler du problème particulier des travailleurs sans papier qui concerne la société Casanova du 58 avenue Victor Hugo à Pavillons-sous-Bois, qui ont été licenciés par le gérant de cette entreprise. Il y a 7 personnes concernées, dont 4 qui sont presque là tous les jours depuis lundi dernier, en compagnie de l'ULCGT du 93 de l'association Droit Devant. Je peux en parler en connaissance de cause car j'ai vu notamment les personnes licenciées travailler pour le gérant à son domicile particulier. En effet, j'habite en face et je les ai vus se faire traiter comme des chiens par cet odieux personnage. Il utilisait notamment ces personnes en plus de leur travail quotidien dans cette entreprise pour faire des travaux de maçonnerie, des travaux de jardinage. Et dans la mesure du possible, je souhaiterais que de nombreuses personnes viennent les voir chaque jour. Je répète l'adresse au 58 avenue Victor Hugo, Pavillons-sous-Bois. Ils sont devant la société Casanova. Et je pense qu'ils ont besoin d'être soutenus, que l'on puisse signer leur pétition et de plus que cette démarche soit connue le plus possible, que ce soit des habitants de Pavillons-sous-Bois, de Bondy, de Clichy, d'Aulnay-sous-Bois, les communes avoisinantes.
Ah, bonjour, c'est Caïs de Marseille. Ben, je voulais dire que l'UNEDIC peut remercier les travailleurs sans papier. S'ils ont tous ces excédents, c'est en partie aussi grâce à eux. Alors, dites merci aux travailleurs sans papier. Allez, au revoir tout le monde.
Allô, bonjour à toute l'équipe, bonjour à Daniel. Ici, c'est Hugo à Dijon pour le repère de là-bas si j'y suis. Voilà, j'ai 2 dates à annoncer aux auditeurs dijonnais de la région de Dijon. La première date, c'est le lundi 28 avril. À 18h au cinéma Eldorado, nous proposons de nous retrouver dans le cadre d'un festival qui est organisé par l'Eldorado. À 18h donc une conférence avec Monsieur Gilles-Éric Serralini du CRIGEN, c'est un chercheur indépendant sur le génie génétique. Et puis à 20h il y aura projection du film Le Monde selon Monsanto, avec un débat en compagnie de la réalisatrice et puis du chercheur en question. Voilà, ça c'est un petit apéritif pour la réunion du repère qui elle aura lieu le 13 mai, le mardi 13 mai, non pas le jeudi, à 20h au Vieux Léon, où on poursuivra notre réflexion, nos échanges et les débats sur la question des OGM, sur la question des enjeux autour des OGM, en présence d'un ingénieur agronome, Monsieur Jérôme Chabot.
Bonjour, je voulais simplement partager mon soulagement. En fait, samedi, on a enfin eu des nouvelles d'Ingrid. Elle va bien, nous a-t-on dit. Moi qui pensais que le ridicule de Sarkozy l'avait tuée.
Bonjour, Daniel Mermet. Bonjour l'équipe de là-bas si j'y suis sur France Inter. C'est Tard de Blois. Alors nous réunissons donc tous les jeudis soirs au Café Liberté, avenue Wilson à Blois. C'est le côté quartier Blois-Vienne. Voilà, donc le jeudi à partir de 18h, vous pouvez venir nous rencontrer. Donc le groupe des AMG et de l'équipe de Liberté. Là-bas si j'y suis à Blois. Voilà, ça c'était pour notre rendez-vous. Au revoir.
Le maintien d'un monopole était une atteinte aux droits de l'homme. C'est-à-dire que la liberté de l'homme consiste à dire que je peux aller m'assurer si je veux où je veux.
Nous ne sommes pas coupables d'être malades. Non, non, non. Au franchisme médical.
Quand 10 à 20% des Français auront une assurance privée pour couvrir tous leurs frais médicaux libéraux, ils voudront plus cotiser à la sécurité sociale. Et ça, c'est la fin du système de répartition solidaire.
Nous n'allons pas assurer n'importe qui, n'importe comment, et nous allons prendre quelques renseignements sur la personne.
Le but n'est pas de sauver la sécurité sociale et de combler un mythique trou de la sécu qui serait lié aux dépenses inconsidérées des Français. Le but, c'est de dire, regardez, on a tout essayé, ça ne fonctionne pas, ça marchera mieux si on le passe au privé.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Renaud Lambert. Nous ne sommes pas coupables d'être malades.
Flight number 2, arriving from New York.
Sur chaque recours au système de santé, une participation forfaitaire de 50 centimes par boîte de médicaments, 50 centimes, de 50 centimes sur les actes paramédicaux et de 2 euros sur les transports sanitaires. Cette franchise, je souhaite qu'elle s'accompagne de 3 garanties au moins. Je souhaite d'abord un plafond global annuel de l'ordre de 50 euros. Je ne veux pas que la franchise puisse coûter plus de 50 euros à un assuré par an. 4 euros par mois. Qui va oser me dire que compte tenu du défi que représente pour la société Alzheimer, le cancer, les soins palliatifs, les besoins de la recherche, on ne peut pas mettre 4 euros par mois.
Eh ben oui. Eh ben oui. Même comme ça, il y en a qui sont contre. 4 euros, 4 petits euros de rien du tout, si gentiment demandés, il y en a qui refusent. C'est contre le cancer, c'est contre Alzheimer, c'est pour les soins palliatifs, c'est pour la recherche, et il y en a qui ne veulent pas de cette réforme. Ils veulent garder leur privilège de nantis, leur privilège d'assister. Ils refusent, ils sont quand même assez nombreux. Je le disais, 61% en mai dernier étaient défavorables à ce projet de réforme des franchises médicales. Il circule une pétition appel contre les franchises et pour l'accès aux soins pour tous qui a reçu 70 000 signatures. Et cette affaire est très intéressante et très importante. C'est un sujet qui peut sembler un peu à l'abord rébarbatif, mais on va voir que c'est beaucoup plus passionnant qu'il n'y paraît. La sécurité sociale, c'est 1945. 1945, c'est le Conseil national de la résistance. Et sur cette base, on peut dire idéologique, politique, que la sécurité sociale a été créée et a été créée sur la solidarité. C'est-à-dire que on cotise, les patrons cotisent, les salariés cotisent, et lorsqu'on est malade, eh bien, on est assisté. Il y a une assistance au niveau, on n'est protégé dans sa santé. Or là, ce qui se passe, mais c'est pas le premier coup de canif dans l'esprit de la sécurité sociale. Là, ce qui se passe, mais c'en est un de plus. C'est un coup de canif supplémentaire pour dire c'est le malade qui paye. C'est-à-dire que le malade est soupçonné de fraudes. Innombrables sont les articles, les dossiers, les reportages sur la fraude sociale. Il y a eu encore tout récemment un magnifique numéro d'anthologie du magazine L'Express avec une couverture fraude sociale. La fraude sociale par milliards. Nous fraudons dans le domaine social et notamment par rapport à la sécu. Et voilà que vous ne voulez même pas 4 petits euros. Vous avez vu ces gens qui sont atteints d'Alzheimer? Vous les avez vus? Et le cancer? Vous êtes pour, alors vous êtes pour le cancer. Vous êtes contre la recherche. Vous êtes contre les soins palliatifs. Voilà ce que vous êtes. Eh bien, restez avec nous quand même. Restez avec nous jusqu'à 16h. C'est là-bas si j'y suis.
Chanté par un pauvre homme qui a mauvaise mine. C'est une chanson sans calcium, une chanson à la gomme qui manque de vitamine.
C'est une chanson à virus,
une chanson satanus.
Elle est épouvantable.
C'est une chanson pas dans le vent qu'un besoin fortifiant tellement qu'elle est minable.
Les paroles sont squelettiques,
la musique rachitique,
pas question ça balance.
C'est une chanson sans gimmick,
complètement lymphatique,
c'est presque une ordonnance.
C'est une chanson pas dans le coup,
c'est un genre de rock mou,
pas pour le hit parade. C'est une chanson anémiée pour maison de santé, une triste salade.
Le seul avantage qu'elle a,
cette chanson rap-la-pla,
il est sur la pochette.
Vous ne courez aucun risque, découpé sur le disque,
la petite vignette.
Découpez-la soigneusement,
postez-la sur le champ,
faites-vous porter pâle, et vous serez, croyez-moi, tous remboursés par la sécurité sociale.
Encore un étage, et voilà tout en haut le cabinet médical. Sonnez et entrez. Alors, on est au cabinet du docteur Ménard, dans la cité des Francs-Moisins à Saint-Denis, et il a accepté de nous laisser entrer dans l'une de ses consultations avec l'accord évidemment de sa patiente.
Salut Cyril. D'accord. Oui, il serait souhaitable de faire quelques autres examens, mais on va être dans des problèmes de... Comme toujours, je t'avais dit la dernière fois, des coûts que cela entraîne. Parce que donc, tu m'as dit que tu vivais avec combien par mois ?
630 €.
630 €. Et dès que tu as des soins qu'il faut que tu payes de ta poche, bah, tu as
oui.
du mal.
Bah oui, je... En fait, tu les fais même pas.
Tu les fais pas.
Oui. Et je me demande même pour le mois de janvier, là, c'est qu'ils ont prévu 1 euro par boîte de médicaments.
Un demi-euro.
Ah, un demi, ah, parce que moi j'ai entendu 1 euro. Mais ce sera même pour les personnes qui sont à 100%.
Eh oui.
Ouais, bah alors là, faudra faire un tri dans les médicaments, parce que moi j'en ai 30 de prescrits, 30 boîtes, et donc je serai obligé de faire un tri même là. Parce que les 15 euros par mois, j'aurai du mal.
Oui, il y a un plafond, ça sera limité au début à 50 euros par an.
Voilà, normalement, quand tu auras payé 50 euros, ouais, tu auras arrivé le plafond.
Ouais, ça fait 3 mois à attendre. Hein.
Sur les médicaments, sur les actes infirmiers et sur les transports en ambulance. Mais ça, les transports en ambulance, il y a longtemps que tu ne les prends plus puisque tu ne peux pas les...
je me traîne jusqu'à l'hôpital. Ouais. Je ne l'ai pas pris quand j'ai été hospitalisée pour une arythmie. J'étais en arythmie et je marchais. Ce qui n'est pas normal.
Arythmie, c'est ?
C'est le cœur qui bat plus comme il faut. Il bat... enfin, c'est grave, quoi. C'est
voilà,
grave.
Je suis partie me faire faire un électrochoc à pied. Voilà. Je ne pense pas être une irresponsable. C'est ma vie. Et ma vie... J'y tiens.
Moi, je travaille ici à la Cité des Francs-Moisins, donc j'ai à soigner des populations qui sont depuis très très longtemps dans des difficultés économiques. Et quand on vit avec peu d'argent, eh ben, par définition, on a des difficultés à bien se nourrir. Car bien se nourrir, ça a un coût. Et effectivement, les gens ici sont plus au régime patate, régime couscous. Bon, donc on a... un impact, et c'est connu, hein, un impact direct, des gens peuvent vous dire aujourd'hui, enfin des gens ont démontré que vous ouvrez la bouche d'un enfant, n'importe que vous prenez n'importe où, en ouvrant sa bouche, vous savez de quel milieu social il est. Donc, sur la santé, la situation sociale a un impact évident. Donc, une fois que la santé est détériorée, on avait quand même, jusqu'à maintenant, un système de soins qui permettait de soigner tout le monde de la même manière et d'atténuer les conséquences de cette inégalité sociale. Et l'inégalité sociale, elle ne fait qu'augmenter. Donc, voilà, une fois de plus, sont les plus précaires, les plus pauvres, qui vont se prendre encore en pleine poire une mesure... qui est particulièrement injuste. L'adage selon lequel il faut mieux être riche et bien portant que pauvre et malade est un adage qui colle de plus en plus à la situation française. L'idée que derrière c'est un processus de responsabilisation des malades, ça est un gros mensonge. Parce que dans le cas des personnes malades, ils ne choisissent pas leur maladie. Ils ne choisissent pas la nature des traitements que l'on donne. Mais ça correspond à une représentation pour un certain nombre de personnes qui gèrent ou qui décident dans ce pays de s'imaginer que tous les gens sont une utilisation, j'allais dire, lucrative des soins, se faire plaisir, consommer du médicament pour se rassurer. Quoi, en gros, que toute la population est hypochondriaque et qu'elle a besoin de se rassurer en utilisant de manière abusive un système de soins. Ce n'est évidemment pas cela. La raison ne tient pas. Et puis, la chose la plus grave pour moi, c'est que c'est un changement profond de nature de la protection maladie. Auparavant, depuis 1945, les citoyens cotisent, donc les salariés cotisent à l'assurance maladie en fonction de leurs moyens, et ils utilisent l'assurance maladie en fonction de leurs besoins. Donc, on est dans une démarche de solidarité. Tout le monde cotise, les jeunes pour les personnes âgées, les non-malades pour les malades. Avec ce système, on est en train de casser cela, et ce sont les malades qui payent pour les malades. Plus vous êtes malade, plus vous payez. On change de système de protection maladie. Et moi, je pense que les malades, aujourd'hui, ont tout à perdre de ce changement de système, qui était quand même un système universel, basé sur la solidarité, et qui a fait les preuves de son efficacité. Dernière chose, pour moi aussi, s'il y a déficit, car il y a déficit, eh bien, il faut poser la question de la nature du déficit et pourquoi du déficit. On parlait de responsabiliser les malades. Quand un homme politique dit, tient un discours, qu'il soit ministre ou autre chose, sur la responsabilisation des malades, quand on sait que l'État français doit des milliards à l'assurance maladie, je dis là, on se fout de la gueule du monde. Allez faire la morale aux autres alors que vous ne payez pas vos dettes. Quand on ne paye pas ses dettes, ça ne donne pas le droit d'aller faire la morale aux autres.
Il ne faut pas, d'être malade. Non, 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 au franchise médical. Nous ne sommes pas coupables d'être malades. Non, 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 au franchise médical. Nous ne sommes pas. Non, non, non. Nous ne sommes pas.
Il gagne. Bah, on va le mesurer.
Il gagne.
Il gagne, moi je le vois un peu aussi, mais...
Il faut sortir le...
Bah oui. On va mesurer. Alors, ça fait 49,8 et 53. Elle gagne.
Ah, le monsieur, qu'est-ce qu'il va ici? Il va pointer.
Voilà, mais il a joué trop fort. Elle a gagné. Elle a perdu encore. Alors, on ne voit rien. Oh là là, il y a gros, oui.
Alors on tire, on pointe là les boulistes, et derrière les boulistes, ce samedi 13 octobre, on entend une manif qui passe, une manif contre les franchises à Paris. Nous ne sommes pas coupables d'être malades. Étrange slogan. Et oui, mais il y a quelque chose qui se passe là. Il y a une culpabilisation, du moins un soupçon sur le malade. Il y a un soupçon, le soupçon de la fraude. Si, et il s'agit, c'est ce qu'on a entendu dans la bouche du président de la République lui-même, de responsabiliser. Il faut responsabiliser les assurés sociaux, et les responsabiliser, ça veut dire qu'ils sont irresponsables, et irresponsables, ça veut dire qu'ils gâchent, qu'ils abusent, qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font en allant chez le médecin ou en allant chez le pharmacien. Ils gâchent, et c'est eux, bien sûr, sont eux qui creusent le trou, l'immense trou de la Sécu qui est, on ne sait pas très bien, 9, 8, 9, 10, 11 milliards d'euros. C'était au moins l'évaluation, 11,7 milliards d'euros en 2007. Mais en soumettant les stock options à cotisation sociale, si lorsqu'on verse des stock options, on appliquait la cotisation sociale de la même façon qu'on le fait pour les salaires, pour le travail, eh bien on pourrait faire rentrer 3 milliards d'euros dans les caisses de l'assurance maladie. Ce serait quand même déjà, ça permettrait de réduire la taille de ce trou, sans parler évidemment d'autres financements possibles de ce trou. On parle de déficit de la sécurité sociale, mais le terme déficit s'applique à une entreprise qui fait des bénéfices et qui fait du profit. Or, ça n'est pas l'esprit, ni le rôle, ni la mission, évidemment, de la sécurité sociale. Ce que disent aussi ceux qui luttent contre ce projet de franchise, c'est que, au mieux, et c'est inscrit dans le projet, ça permettra de récupérer 850 millions d'euros. 850 millions d'euros, et je précise encore, en soumettant les stock options à cotisation sociale, on a déjà 3 milliards. Donc on se demande pourquoi un tel projet pour un résultat somme toute assez mince. Allons manifester.
Pourquoi ils manifestent, les gens, avec ce genre ?
Bah, je pense que c'est pour la médecine, pour les médecins, infirmières et tout ça.
Vous ne manifestez pas ?
Moi, j'ai déjà manifesté. Maintenant, je me détends un peu. Tout à l'heure, je vais au grand cortège à la fin, là-haut.
Ah, d'accord.
Ah, bah oui, quand même. Il faut le soutenir. Ben oui, c'est notre santé qui est en jeu.
Mais vous, c'est pas normal que les malades, ils payent pour leurs médicaments et tout ça ? Il faut responsabiliser les gens un petit peu.
Ben non, on paye des gens en sécurité sociale. Moi, je n'ai cotisé pendant 45 ans, maintenant je suis retraité, il faut que je continue à payer. Alors, je suis malade, on ne me soigne pas, mais payer, il faut que je paye tout le mois. Alors, je suis d'accord avec eux, il faut le soutenir. Il faut aller, tout le monde à la rue. Voilà.
Bon, là, vous allez pointer, vous allez tirer.
Là, je vais pointer. Voilà. Tous ensemble, tous, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble.
Alors, ça, la touche. Voilà. Tous ensemble.
Le trou de la sécu, c'est les patrons qui l'ont creusé. C'est à eux de le reboucher. Le trou de la sécu, c'est les patrons qui l'ont creusé.
Et revoilà la sécu, bien évidemment, c'est ça dont il est question et dont il va être question dans les temps qui viennent. Alors, il existe, je l'ai dit, une pétition contre ces franchises et l'un des animateurs de cette pétition, c'est Christian Lehmann, qui est médecin généraliste et qui est également écrivain et qui répond à nos questions.
J'étais médecin généraliste, je m'intéressais à la question sociale, mais sans plus. Et j'ai eu un vrai électrochoc le 27 juin 2006. Je prends une journée de repos sabbatique, je quitte le cabinet médical et je vais à l'Assemblée nationale où l'UMP, on est un an avant l'élection, l'UMP fait une convention santé. Et le soir, le discours de Nicolas Sarkozy, ce discours qui pour moi reste fameux parce que c'est un vrai électrochoc.
Les abus et les fraudes représenteraient entre 5 et 10% des dépenses de santé, soit entre 7 et 14 milliards d'euros. Bah, c'est l'exact montant des déficits. Alors, nous devons nous attaquer également aux abus, au gaspillage et aux fraudes. Et rappeler aux Français qu'il n'y a pas de droit sans devoir.
Ce discours où il utilise des techniques de Camelot, il parle d'une femme.
J'ai trouvé qu'il y avait une patiente qui avait consulté 75 médecins en un mois.
Qui est vraiment un exemple type.
Je ne sais pas si c'était plus fatigant pour elle que pour les médecins. Mais un côté déprimant. Remarquez, elle avait acheté 12 boîtes d'anxiolytiques par jour. Je reviens sur mon jugement, c'est les médecins qui étaient les plus fatigués.
Il prend un cas totalement pathologique d'une femme qui a un vrai problème psychiatrique et par une espèce de pirouette, il explique donc que ça nécessite et ça légitime les franchises.
Alors je souhaite que les caisses d'assurance maladie, lorsque des anomalies sont détectées par leur système d'information, puissent saisir de façon plus réactive les médecins traitants et les instances représentatives des professions de santé.
C'est-à-dire qu'on prend une personne et à partir de là, à partir de ce qu'on appelle en médecine une histoire de chasse, on explique que le système solidaire ne peut pas tenir puisqu'il y a de telles dérives.
Alors, je suis également partisan de l'introduction dans des conditions équitables d'une franchise sur la consommation de soins. Parce que promettre des dépenses de santé toujours plus grandes sans poser la question du financement, ça n'aurait aucun sens.
Qu'il n'y a pas de problème dans un pays où les Français dépensent des dizaines d'euros pour l'Internet et la téléphonie mobile, à ce qu'ils fassent la même chose pour la santé. Ce qui est étrange, parce que je sais que c'est le rêve érotique mouillé de l'Organisation mondiale du commerce, hein, que l'éducation, la santé, ça soit la même chose que la bagnole et la téléphonie mobile, tout pour le marché, pour la concurrence libre et non faussée. Mais enfin, en France, a priori, il y a certaines règles, et en particulier, il y a le programme du Conseil national de la résistance en 1945 qui dit certaines choses, qu'en France, il y a un droit du travail, que certaines choses comme la santé et l'éducation sont sanctuarisées dans le domaine public. En fait, c'est ça qu'ils veulent abattre.
C'est ça qu'ils veulent abattre, dit Christian Lehmann. Et en effet, vous avez été nombreux quand même à noter un certain édito dans un magazine qui s'appelle Challenge, le 4 octobre 2007, sous la plume de Denis Kessler, qui est l'ex numéro 2 du MEDEF, qui est directeur et qui a été directeur d'AXA, qui est directeur d'un grand patron de compagnie d'assurance, etc. Et qui nous dit « Le modèle social français est le pur produit du Conseil national de la résistance, un compromis entre gaullistes et communistes, il est grand temps de le réformer et le gouvernement s'y emploie. » Et Denis Kessler, la plume alerte, dit toute sa joie de voir ce système du Conseil national de la résistance, cet esprit et ses valeurs, peu à peu démantelé, et il se réjouit du travail de l'actuel gouvernement et du nouveau président. C'est donc bel et bien quelque chose d'organisé et qui relève de ce qu'il faut bien appeler un dogme.
Quels sont les dogmes qui sont mis en avant? Alors, le premier dogme, c'est, il faut être clair, que c'est la faute du patient. Parce que si on parle constamment de
responsabiliser,
et Sarkozy le dit en martelant chaque syllabe, responsabiliser les patients.
La question de la franchise est pour moi une question incontournable. Car c'est la seule façon de responsabiliser les patients.
C'est que les patients, ces comptes votants, sont des irresponsables. Alors, en quoi serait-il irresponsable? Eh bien, en fait, en 1945, dans un pays qui est exsangue après la guerre, il y a une alliance entre gaullistes et communistes, et le programme du Conseil national de la résistance, c'est entre autres de créer une sécurité sociale solidaire dans laquelle chacun, bien portant et malade, va cotiser, et dans lequel les malades seront soignés en fonction de leurs besoins et quel que soit leur revenu. Ça a été possible. Il a été possible de mettre ça en place dans une France exsangue. Aujourd'hui, 50 à 60 ans après, la droite UMP, qui pourtant se dit héritière du gaullisme, est prise d'une véritable schizophrénie, puisque, désirant passer ça au privé, elle est obligée d'enterrer le grand cadavre de Gaulle. Et donc, elle invente ce concept de responsabilisation du patient, et en gros, elle se dédouane, elle se déculpabilise en disant la chose suivante. Oui, mais De Gaulle, il avait affaire à une France vraiment malade en 45, c'était des vrais malades, et nous, c'est François Fillon qui le dit, nous avons affaire à des consommateurs de soins avec des comportements irrationnels. C'est ça la grande invention de la droite UMP, de la droite Sarkozy. Ce ne sont plus des malades, ce sont des consommateurs de soins aux comportements irrationnels. Donc, l'homme politique qui détruirait le système d'assurance maladie solidaire ne serait pas un charognard du Conseil national de la résistance, mais quelqu'un qui simplement est un bon contrôleur de gestion d'un système devenu insane.
Qu'il était bon, qu'il était beau, l'étendue du mère cerveau, l'on ne savait rien de ce mot aspirine. Déjà éternué à tout va, il avait des négros comme ça, et ça sentait bon l'infusion dans les cuisines. Aujourd'hui on se fait des vaccins, on prend des trucs et des machins, on s'enfile des ustensiles dans les narines. On ne peut plus maintenant être malade comme avant, tout ça à cause des médicaments. J'en ai assez, je n'en peux plus. M'enfiler des trucs dans le nez, dans les oreilles et dans le gosier. Je voudrais bien qu'un jour on cesse de me piquer dans les deux bras et les biceps comme des loups-gars. Je suis gentil, je suis très bon, mais faut pas me prendre pour un crétin. Et si un beau jour je m'énerve, je le dirai carrément zut. Qu'il était bon, qu'il était beau, l'étendue du mère cerveau. Rien de ces mots aspirines. Quand on n'était pas bien portant, on s'adressait à grand-maman qui nous préparait un lavement pour une angine. Aujourd'hui pour un panari, on dévalise des pharmacies où la moitié de nos économies se débine. On ne peut plus maintenant être malade comme avant, tout ça à cause des médicaments.
Dans son dernier film, Michael Moore dans Psycho parle de la protection sociale aux États-Unis qui, vous le savez, est catastrophique. Par millions, c'est par dizaines de millions qu'on compte les Américains, enfin les États-Uniens, qui n'ont pas aucune couverture sociale. Et Michael Moore, qui force toujours un peu le trait, dit l'exemple, c'est la France, parce que là, la santé est entièrement gratuite en France, c'est formidable, etc. Alors, elle n'est pas entièrement gratuite, mais enfin, c'est vrai que elle est presque, enfin, elle a fonctionné jusque-là. Mais elle fait l'objet de ces pressions, de ces poussées, on peut imaginer les pressions, évidemment, des assurances privées, pour essayer de gagner cette formidable, cette fabuleuse citadelle. Ce serait quand même extraordinaire que ce soit les États-Unis qui fassent modèle. C'est quand même quelque chose d'inquiétant. Ce serait extraordinaire que ça se passe. Et bien sûr, ça paraît très peu de choses, une petite franchise de 4 euros, 0,50 centimes d'euros sur une boîte de médicaments. On voit que pour des gens qui sont en grande difficulté, c'est une difficulté supplémentaire. On voit bien sûr que... alors on répond à cela que, mais non, on fera du cas par cas, mais bien sûr, dans les cas limites, on aidera les gens, etc. Mais ça, c'est pas l'esprit de la sécurité sociale, ça s'appelle la charité. C'est les bonnes œuvres. Ça n'a rien à voir avec cet esprit du CNR et le principe de solidarité. Donc on voit que ça se dégrade et on voit qu'il y a de quoi s'inquiéter, même si il y a du côté libéral, pour pas dire ultra-libéral, ceux qui militent. D'ailleurs, ils ne disent pas ultra-libéral, ils disent alternative libérale. Et c'est monsieur Éric Prosé qui répond à nos questions.
Alors, on est en ce moment au Café 16, rue de la Pompe, tout près de la caisse primaire d'assurance maladie du 16e arrondissement, avec Éric Prosé. Alors Éric Prosé, vous allez vous présenter. La première chose qu'on peut dire, c'est que vous et la Sécu, c'est pas une grande histoire d'amour.
Non, c'est moins qu'on puisse dire. La Sécu, c'est un système qui a été mis en place par une ordonnance d'un gouvernement transitoire en 1946, je crois, qui était d'ailleurs communiste. Et depuis, ce mécanisme-là n'a pas été réellement remis sur le tapis. Alors, je suis en faveur d'un système de solidarité dans la mesure où ce n'est pas un système d'assistanat, c'est-à-dire où chaque personne prend bien conscience que une assurance maladie et une couverture sociale, c'est quelque chose qui se gagne. C'est-à-dire que c'est pas un dû qu'on doit utiliser à tout prix, c'est quelque chose qui se gagne. Donc déjà, la première chose, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait une différence entre les personnes qui font un investissement personnel de leur argent, de leurs moyens pour arriver à obtenir une bonne couverture, et ceux qu'on va couvrir parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire par eux-mêmes et qu'on va donc les aider. Donc il faut déjà qu'il y ait une différence. Aujourd'hui, en France, déjà pour commencer, on n'accepte pas cette différence. Et j'ai découvert en fait la boîte de Pandore, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des milliers de personnes en France qui luttent contre la Sécu, qui refusent son monopole, qui refusent son diktat et qui font des démarches dans tous les sens. Alors, à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à me rejoindre avec d'autres personnes qui mènent des combats, à partager les informations de manière à monter en fait un argumentaire complet pour voir comment on pouvait contester cette omniprésence de la Sécu et donc la liberté de s'assurer.
Donc en fait, le calcul que vous faites, vous, c'est plus que la sécurité sociale ne me couvre pas, qu'il y a des assurances qui me permettraient d'être mieux couvert, je préférerais passer directement dans un système d'assurance privée qui correspond plus à mon...
Voilà. Moi, je me rends compte qu'en 13 ans d'activité, je n'ai pratiquement jamais posé un jour de congé. C'est-à-dire que si je pose un jour de congé, de toute façon, c'est à mes frais. Et comme par hasard, on s'aperçoit que je suis tous les jours au travail. Alors qu'il y a des gens qui arrivent à totaliser des 20, 30 jours par an pour une maladie, un rhume, un ceci, un cela. Et en fait, ce qui m'a été remboursé en 13 ans, ça se compte, c'est inférieur à 1 000 euros. Or, moi, en 13 ans, j'ai cotisé à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros. Toute cette, ce qu'on appelle cette économie administrée de la Sécu, qui consiste à dire qu'une seule entité gère la totalité du système, eh bien aujourd'hui, tout est perverti. On n'a pas un prix par rapport à un service. Aujourd'hui, je veux dire, il y a des questions qui devraient être posées de manière simple. Est-ce qu'une personne qui a 90 ans, qui a été opérée 4 fois de la hanche, de ceci, de cela, est-ce qu'il faut continuer à s'acharner? Est-ce qu'il faut continuer à dépenser 20, 30, 40, 50 000 euros pour soigner cette personne? Mais aujourd'hui, mais comment vous voulez poser la question dans la situation dans laquelle on est? Vous allez vous retrouver devant un comité scientifique qui, de toute façon, sont rémunérés par la Sécu, et ils vont dire « Ah ben oui, il faut ». Mais où est la logique économique? Quand vous avez une assurance, eh bien, vous avez une personne qui fait un calcul économique et qui dit, voilà, par rapport à l'ensemble des assurés, voilà ce qu'on peut prendre en charge. Si vous n'êtes pas satisfait par ces conditions-là, eh bien, je vous invite à aller chez le concurrent qui va peut-être vous demander une prime légèrement supérieure, mais qui, lui, va vous assurer sans aucun problème jusqu'à 90 ans et à la 20e opération et vous maintenir en vie, intubé, je ne sais pas quoi, jusqu'à 105 ans, même si vous n'avez plus de tête. Il faut pouvoir réfléchir.
La logique économique, la concurrence. Vous connaissez bien sûr cette chanson-là, puisque c'est celle qu'on entend quand même toute la journée, du matin au soir, plus le matin que l'après-midi sur France Inter. C'est vrai, mais enfin, on l'entend énormément. Alors, trou de la sécu, trou de la sécu, déficit de la sécu, qu'est-ce que c'est? C'est la protection sociale, c'est la protection, c'est fait pour nous protéger, la sécurité sociale, sécurité sociale. Et la défense? Ah, tiens, téléphonons.
Vous êtes en communication avec le ministère de la Défense, veuillez patienter.
Oui, ministère de la Défense, bonjour.
Oui, bonjour madame, c'est Renaud Lambert, l'appareil, je suis journaliste à France Inter.
Oui.
Je vous appelle parce que j'aurais aimé connaître le trou de la Défense.
Alors un instant, je vous mets en relation avec un service.
Merci.
Allô?
Oui, bonjour monsieur, bonjour. C'est Renaud Lambert, je suis journaliste à France Inter. Je vous appelle parce que j'aurais aimé connaître le trou de la Défense.
Ah. Alors sur ce point-là, je peux pas vous aider parce que j'en ai aucune idée. Par contre, j'ai essayé de voir l'info, mais alors attendez, je vais voir. Je vous reprends tout de suite. Hein.
Mais, merci.
Allô.
Oui.
Oui, je vais vous passer un officier de presse. Hein.
Ah très bien, merci.
Allô.
Oui. Bonjour monsieur. Oui.
Bonjour monsieur. Je vais essayer de me renseigner sur le fait de savoir si on a bien un trou.
En fait, finalement, aujourd'hui, bon, on demande aux patients d'être responsabilisés. Bon, d'accord, très bien, on sait qu'il y a des abus, mais on sait aussi qu'il y a des gens qui sont plus exposés. Par exemple, nous, on est à Paris, on sait que les épidémies de grippe, elles sont plus importantes à Paris. Donc, on est plus exposés, bon, mais on va être un peu plus mis à contribution. D'une certaine façon, les gens qui habitent proche des frontières et qui sont plus exposés à des dangers d'invasion, des choses comme ça, bon, à la limite, on pourrait les responsabiliser aussi, les faire contribuer un peu plus à la défense nationale, parce qu'ils ont la responsabilité d'habiter dans des zones qui sont un peu plus dangereuses, quoi.
Ouais, mais c'est... Vous sortez ça, vous soulevez un tollé, là.
Mais on,
c'est ce que je veux dire.
Mais on n'hésite pas à le faire pour la sécu, mais on le fait pas pour la défense.
Oui, mais je vous dis, pour la défense, c'est la responsabilité de l'État de protéger tous les citoyens, où qu'ils se trouvent en France et même à l'étranger.
Mais la santé, c'est la protection des citoyens.
Oui, bien sûr, mais tout le monde n'est pas égal devant la santé ou devant la maladie. Alors que tout le monde est égal devant le danger, alors comme vous dites, d'une invasion ou d'un autre.
Ouais, sauf que les Strasbourgeois, ils ont l'expérience du dernier siècle nous a montré qu'ils sont plus exposés à des dangers d'invasion, quoi.
C'est un peu tiré par les cheveux quand même. C'est la responsabilité de l'État de protéger ses ressortissants partout où ils se trouvent dans le monde. Et à eux, on ne va pas leur faire payer un impôt supplémentaire parce qu'ils sont vecteurs de plus de dépenses, à la limite, pour l'État, pour leur sécurité. Parce qu'en même temps, s'ils sont vecteurs de plus de dépenses pour leur sécurité, les rentrées d'argent que leur société pour laquelle ils travaillent fait rentrer à la France, c'est peut-être aussi intéressant aussi, quoi. Je suis pas sûr, mais...
Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'envoie un...
Vous envoyez un mail, je vais vous donner l'adresse. Mm-hmm. Moi, une fois que j'ai ça, je le transmets au SGA, hein, au Secrétariat Général pour l'Administration, qui désignera le monsieur ou la madame idoine pour vous répondre.
Ouais. Bon, c'est noté. Je vous remercie.
Mais c'est rien.
Bonne journée. Au revoir.
C'était un reportage de Renaud Lambert. Merci à toutes et à tous. À lire Les Fossoyeurs de Christian Lehmann aux éditions privées et Le mythe du trou de la sécu de Julien Duval aux éditions Raison d'agir. Pour signer la pétition contre les franchises médicales, une adresse internet www.appelcontrelafranchise.org. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, rubrique émission Là-bas si j'y suis. À la technique cet après-midi, Ronan Mahé et Yann Bouillot, réalisation Yann Chouquet et Coyenne Guyenne, assistante Charlotte Perry. Elle s'occupe également du répondeur de Là-bas si j'y suis, le numéro 01 56 40 37 37.
Golden 7. À vendre l'aîné 59 Sécuritest, prière de ne pas stationner, accès motorisé, essai des essors, poste 300 mètres. Meunier Tudor, cédé le passage canal, chute de pierre, saveur fermier, sortie de pompier. À vendre. Point vert ouvert, rue Fleming, magasin d'usine, sortie d'usine, tout pour la cuisine. Paris déménagement, la voie du Nord, tabac café, place Maréchal Joffre, danger. Lycée, sauf riverain, sauf bus. Hôtel des ventes, vous n'avez pas la priorité, même en bus. Rachat de prêt, bureau, d'avocat, rue de Verdun, visitez notre hall. Sortie de garage, impossible de rentrer. Vous êtes filmé. À vendre. Mac de trucs, MKJ plus de pub. Ouverture, fenêtre, William Bell. Au feu, construction, centre, les trois cloches. Tonight. Martin, Martine, complexe sportif, sortie de camion 65, ne pas stationner, conseil, vente zone, Indus, et Zedad aussi. A bientôt et merci de votre visite. Marque les murs, tonight. Empreinte, banquet, séminaire, stop, crève-cœur, accroche-cœur, asperge en vente. Cédez le passage, tribunal d'instance, dégagement à droite autorisé, à vente 206, 16S ou je ne sais pas trop quoi. Dégagement de la droite souhaité. Dégagement de la droite souhaité. À vendre. Nouveau propriétaire, stop, cédez-moi le passage. Faubourg du Cateau, toute direction, le meilleur de la maison. Féminin, masculine. Tonight, what they need. Stop 80, rue Vauban, Paris-Lille. Pneumatique, freinage, piéton, vélo, bus. Lille-Paris, encore Paris, toujours Paris. Le tout Paris, rien que Paris. Petit prix, je te jure. Passage surélevé, rappel, la dictée de pivot, pivoté à gauche. Avenue du Gâteau, textile, cédez le passage, carrosserie, l'escale, mise en fourrière immédiate, qu'est-ce que ça peut faire? Vidange, belle France, alloué. À vendre. Belle France, voie du Nord, Lille, 400 millions de briques et plus encore. À retaper belle affaire, magasin du Lego, cédez le passage, gendarme, appel de phare, rappel, 90, double voie, bonne route. Belle vue, cédez le passage. À vendre. Mac de truc, MKJ plus de pub. Ouverture, fenêtre, William Bell. Au feu, construction, centre, les trois cloches. Tonight. Vélo, herboristerie, sans rendez-vous. Bois au détail. Le verre, maxi-service. Stomer 110. Cédez le passage, Paris. Interdit de tourner. Halte douane, reculez d'un pas. 90, 80, 60. Hôtel de ville, village fleuri. Palais par verglas, slow down. Arras, Reims, Paris, Metz, 500 millions de briques et des centaines de tuiles. Cédez le passage, les voies nordiques, le nord vers le nord, cédez le nord, plus encore le grand nord. Zingerie, pharmacie, plomberie, obstétrie, rue de Gaulle, vidéo future, vancargo.com, GVRD, vent du nord. Ralentir, la pause s'impose, ralentir. 30 à l'heure, cédez le passage, pensez à vos vies. Restez en vie, quel con. C'est loin, 90-130. Vous n'avez pas la priorité, c'est la dernière fois qu'on vous le dit. A 26 radar, tiens, comme par hasard, par verglas, ne pas glisser. Le froid est clean, 2000 mètres sans s'interdit. Esso, air de repos, vert, tes fesses par terre. Total, encore mieux, tu meurs.
verte planète, terre sauvage, interdite au public. Et en plus...